Psaume 91. Si j'ai bien écouté l'introduction de ce culte par le groupe Louange, je pense que les pensées de tout à l'heure vont rejoindre les miennes. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. J'aimerais vous parler ce matin de la protection du Seigneur. L'importance de vivre sous la protection du Seigneur. Nous avons dans l'Écriture de très nombreuses promesses comme quoi Dieu protège les siens. Et nous avons besoin d'être en permanence rassurés par cette déclaration du Seigneur « Je suis ton refuge, je suis ton abri, je suis ta forteresse. Sous mes ailes, tu trouveras un refuge et une protection. » Plusieurs dizaines de textes, rien que dans les psaumes, nous parlent avec abondance et de différentes manières, avec différentes images, de la protection du Seigneur. Et je pense que chacun de nous, sans exception, je crois vraiment que ça peut être sans exception, peut dire et témoigner que vous avez un jour ou l'autre réellement vécu une fois, deux fois, dix fois la protection surnaturelle de Dieu. Vous avez été gardé d'accidents de la circulation, à vélo, à pied, des accidents domestiques, etc. Je me souviens d'un frère de l'église ici qui disait qu'il roulait sur l'autoroute et qu'il n'avait pas vu que littéralement le bouchon commençait avec des voitures qui étaient à l'arrêt. Et les feux de détresse n'étaient pas mis et il arrivait à peu près 100 km à l'heure. Et au dernier moment, bien sûr, il a freiné, mais il s'est aussi dévié sur la droite pour se mettre sur la bande d'urgence. Et ils avaient leur petite derrière dans la voiture. Et la voiture derrière eux n'a pas eu le même réflexe. Il a foncé dans la voiture pour complètement s'encastrer dans la voiture. Il disait, mais si nous, on avait simplement freiné pour nous arrêter devant, c'est la voiture derrière qui nous aurait démoli et notre enfant était à l'arrière. Elle aurait à coup sûr eu de très graves dommages. Le Seigneur garde. Je me souviens d'une autre situation, d'un autre frère qui travaillait sur un bateau et ils étaient en train de décharger avec un palan qui descendait des grosses charges, des palettes. Et à un moment donné, il était donc en train de préparer la charge suivante qui devait arriver. Il a senti une main qui l'a poussé et la charge est descendue et s'est écrasée. Mais il était poussé et il a donc été épargné de justesse de cet accident, bien sûr, qui aurait pu être gravissime. Le Seigneur met ses anges en route pour protéger, et nous sommes tous au sujet le sujet de la protection du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est dit encore au psaume 25, verset 5, psaume 25, verset 5, on peut le projeter, « Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. » Et il m'élèvera sur un rocher. Juste le verset 5. Le psaume 61, verset 4. Tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Et puis encore, on voit dans ce testament que le Seigneur avait protégé tout Israël par sa gloire. Il est dit dans plusieurs textes que la gloire de Dieu couvrait comme une couverture. La gloire de Dieu couvrait Israël en signe de protection. Le Seigneur veut nous dire de plusieurs manières différentes, l'abri, le refuge, le bouclier, la tour forte, etc. Il veut nous dire, je te protège, je te mets à couvert. Et il est extrêmement important que tu restes à couvert, que tu demeures à l'abri du Très-Haut et que tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Et j'aimerais, dans ce message, nous faire comprendre que si Dieu nous protège, nous devons aussi nous demeurer dans une position de protection. Il est indispensable non seulement de compter sur la protection de Dieu, mais de savoir qu'il y a une condition pour être protégé, c'est de demeurer à l'abri du Très-Haut et de rester dans la forteresse qu'est le Seigneur. Le lieu secret, l'abri du Très-Haut, les plumes qui nous couvrent, ce lieu secret, l'abri du Seigneur, le refuge, c'est un lieu secret, il est aménagé spécialement pour les siens. Et il est rempli de sa présence et de sa gloire. Les chrétiens ont souvent vu la protection de Dieu, et ils ont vu que si on est au bon endroit, eh bien le Seigneur étend sa protection. Je vous lis juste ce qui s'est passé il y a longtemps, sous le réveil du Pays de Galles. Je crois que ce n'est pas un concept inconnu, le réveil du Pays de Galles, nos églises, tout le réveil de Pentecôte, des églises charismatiques et pentecôtistes, eh bien, ont trouvé un essor explosif et très très grand à partir des années 1906-07, etc., où il y a eu en Europe, comme on le sait, ce réveil du Pays de Galles. Et dans ce réveil du Pays de Galles, il y a eu un ministère qui s'appelle Rhys Howells, qui était un mineur. Le Pays de Galles est un pays de mines et de charbon. Il est devenu prédicateur et surtout un homme de prière. Il a mis sur pied plus tard une école biblique qui a fonctionné longtemps. Et cette école biblique a été, durant la Deuxième Guerre mondiale, un vrai refuge contre les bombardements des nazis qui visaient justement un port, le port de Swansea, qui est une petite ville environ à 100 km de Bristol du côté ouest. Et dans cette école, il y avait en permanence une centaine de personnes qui priaient, qui intercédaient pour le pays, qui priaient pour la défaite de l'ennemi et aussi la mise en place du retour des Juifs en Israël. Intéressant. Ils avaient compris aussi que cela fait partie du plan de Dieu. Et le Seigneur avait dit par prophétie que les bombes de l'ennemi n'atteindraient pas cette école biblique. Et les gens de la périphérie avaient pris au sérieux cette prophétie. Vous imaginez que les gens du monde prennent au sérieux la prophétie qu'il y a dans l'Église. Eh bien, ils sont venus par quantité se réfugier dans cette école biblique qui n'a jamais été atteinte par un bombardement alors qu'ils étaient sur la région côtière de Swansea. Et donc ça a été bien reconnu que cet endroit était un lieu de refuge, d'abri, matériellement contre les attaques de l'adversaire. Je l'ai dit, la protection de Dieu est liée à une condition. Et pour cela, nous allons développer un peu cela ce matin. La protection de Dieu, c'est extraordinaire, c'est comme une ville avec des murailles, une ville antique avec les hautes murailles. Et tant que j'habite dans la ville, je suis protégé. Je suis protégé. Il est dit encore dans l'Écriture, dans le psaume 125 au verset 2, que des montagnes entourent Jérusalem, ainsi le Seigneur entoure son peuple en signe de protection. Le psaume 139 nous dit aussi, tu m'entoures par derrière, par devant. Si je n'ai pas une muraille, j'ai la main de Dieu qui est devant moi, qui est derrière moi, qui est autour de moi, qui est sur moi. Et sa main est une protection parfaite, n'est-ce pas? Sa main est une protection parfaite. Donc le chrétien est en sécurité lorsqu'il habite à l'ombre du Tout-Puissant, lorsqu'il est dans cette ville, lorsqu'il demeure dans la présence de Dieu. Voici donc ce que dit l'Ancien Testament. J'ai regardé un petit peu les significations des mots, le refuge et l'abri. Eh bien, le mot abri, c'est en fait aussi une couverture où on est caché. On est dans un lieu secret. L'ennemi me cherche, mais il ne me trouve pas. L'ennemi me cherche, mais il trouve le Seigneur. Mais moi, je suis dans le Seigneur, il ne me trouve pas. Je suis dans un lieu secret. Et la Bible dit dans le Matthieu 6:6, c'est facile à retenir, Matthieu 6:6, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, entre dans le lieu secret et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. Tu es en sécurité. Lorsque tu pries ton Père, lorsque tu pries, tu te mets en sécurité, tu te laisses couvrir par l'ombre du Tout-Puissant et tu demeures à l'abri du Très-Haut. Maintenant, le Nouveau Testament n'utilise pas vraiment ces termes de forteresse, l'abri, la retraite, mais la Bible dit dans le Nouveau Testament, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Le Nouveau Testament dit, il faut que tu demeures en Christ. Et dans Éphésiens, c'est une épître que j'aimerais brosser avec vous, sur certains aspects. Nous lisons dans le chapitre 1, nous n'allons pas le lire entièrement, mais il y a quelque chose qui ressort clairement du chapitre 1 de Éphésiens. C'est une répétition de la position que nous avons en Christ. Il est dit, en Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Il est dit qu'en Christ, nous sommes élus, prédestinés, nous sommes dans la rédemption. En Christ, nous sommes scellés du Saint-Esprit. En Christ, nous sommes destinés pour l'éternité. Et au chapitre 2, au verset 6, il nous est dit ceci qui est très important. Il nous a ressuscités en Christ et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ. L'abri, la forteresse, le refuge, l'image de l'Ancien Testament, devient maintenant être en Christ assis dans les lieux célestes. Si je suis en Christ dans cette position de victoire, dans cette position que j'ai reçue en donnant ma vie à Christ, en étant justifié par Christ, en étant purifié par Christ, en étant réconcilié avec Christ, lorsque je suis dans cette position que j'ai non seulement reçue, mais dans laquelle je suis entré, que j'ai prise, parce que prendre et recevoir, c'est le même mot, il faut entrer dans les choses que Dieu nous donne, il ne faut pas rester passif, il faut être actif et proactif. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Lorsque nous sommes ainsi dans notre position de victoire, nous sommes à l'abri et nous sommes gardés. Mon âme est gardée. Mon corps peut souffrir quelquefois. L'ennemi peut parfois nous faire souffrir dans notre corps. Mais mon âme, mon avenir, ma destinée sont parfaitement protégés. Même le chrétien le plus faible, le plus petit, lorsqu'il est en Christ, il est protégé dans une protection parfaite. En Christ, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que vous ne voulez pas le dire avec moi, cette déclaration incroyable ? Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Et cela est une forte promesse, une promesse qui a énormément de valeur. Donc, le but de la vie chrétienne, c'est de ne jamais descendre, de ne jamais toucher terre. Alors, nous ne sommes pas des chrétiens qui sont en train de marcher à 3 mètres au-dessus du sol parce que nous sommes tellement spirituels. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais dans mon âme, dans mon cœur, dans ma foi, je dois rester dans une position d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Et je ne dois pas descendre pour toucher les choses charnelles et terrestres. Voici donc ma position de protection. Car si je descends, et les chapitres suivants vont nous le dire, les chapitres, certainement les chapitres 4 et 5 et au début 6, nous parlent que nous devons faire attention de nous dépouiller de certaines choses terrestres, le mensonge et toutes les choses qui sont inscrites dans ce texte, par exemple, nous ne devons plus marcher comme les païens qui marchent selon l'obscurité de leur intelligence, selon l'ignorance qui est en eux, l'endurcissement du cœur. Ils ont perdu tout sens moral, etc. Ils vivent dans l'impureté. Vous devez renoncer au mensonge, vous devez aussi vivre dans la sainteté. Vous devez faire face à la colère et éviter que la colère puisse donner accès au diable dans votre vie. Évitez également, je parcours le texte, c'est rien d'autre, le chapitre 4, toute l'amertume, animosité, clameur, calomnie, toutes ces choses doivent être ôtées du milieu de vous. Parce que lorsque je suis dans cette zone-là, cette zone de charnel, ces péchés-là, je donne un accrochage au diable. Je donne accès au diable et là, il peut m'attaquer. Tandis que si je reste avec Christ dans les lieux célestes, je suis inattaquable, je peux résister au diable, car je suis soumis à Dieu, je suis caché dans le Seigneur et je suis inattaquable. Je peux résister au diable, il fuira loin de moi. Mais lorsque je descends et que je deviens charnel, terrestre, et que je m'adonne et que je vis selon les fonctionnements qui sont décrits au chapitre 4 et 5, eh bien je suis vulnérable, je suis sorti de ma zone de protection et le diable peut m'attaquer de toutes sortes de manières. Il nous a dit dans Colossiens, chapitre 3, et au verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts aux choses terrestres, aux mensonges, à l'amertume, à tout ce qui déplaît au Seigneur, tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Je suis mort à cela. » Il nous a dit, vous êtes mort. Et votre vie est cachée en Dieu. Et on retrouve l'abri, la forteresse. Je suis caché dans la ville fortifiée. Je suis caché dans le Seigneur. L'ennemi ne me trouve pas. C'est un lieu secret, car je suis caché dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? C'est important. Satan ne peut attaquer que des chrétiens qui sont à découvert, qui sont sortis de leur cachette. Des chrétiens qui sont sortis de leur abri, qui ont quitté l'ombre du Tout-Puissant et qui sont sortis sous les ailes du Très-Haut et qui ont quitté l'abri du Seigneur. Lorsque nous quittons sa présence, lorsque nous quittons sa volonté, lorsque nous permettons de nous éloigner un peu, nous nous mettons à découvert et l'ennemi ne va pas se gêner de nous cibler. Le fils prodigue, dans Luc 15, croyait qu'il pouvait bel et bien mener sa vie en quittant le périmètre de protection de son papa. Il se disait, je peux bien mener ma vie tout seul. Moi, j'en ai assez de ce vieux qui dit toujours les mêmes choses, qui a toujours les mêmes raisonnements, qui je veux faire ma vie moi-même maintenant. Et en partant avec son baluchon rempli de l'héritage, il croyait pouvoir gérer sa vie tout seul. Donc il n'y a rien de mal à ce que nos jeunes prennent leur envol. Ce n'est pas ça que je veux dire, qu'il faut tout le temps rester à la maison du Père. Nous voulons voir le sens spirituel de ce texte. Mais lorsqu'il quitte le périmètre de son Père, il ne savait pas du tout que quelqu'un de plus fort que lui allait le cibler. Il sortait sous la protection spirituelle et l'autorité du Père pour s'engager un peu naïvement dans le monde en profitant de ceci ou de cela. Et en réalité, qu'est-ce que la Bible dit qu'il s'est fait prendre, dépouiller, qu'il est allé de perte en perte et non pas de gain en gain. La flèche descend au lieu de monter. Il est descendu. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien, je ne fais que perdre. Tu es sorti de la protection, de l'abri de ton Père. Et c'est là que la grâce de Dieu agit, c'est qu'au fond du trou, il a le don de la repentance qui lui est donné. Heureusement qu'il ne s'est pas endurci à fond, heureusement que la grâce a pu le toucher. Et il rentre en lui-même, il se dit, heureusement que chez mon Père ça irait mieux. Il pense à son Père, il pense à son lieu de protection et il va retourner dans son lieu de protection où il va retrouver la protection totale, puisque le Père va lui donner des chaussures aux pieds, signe de protection. Il va lui donner un habit de justice, signe de la justice de Dieu. Il n'est pas dévêtu, mais revêtu. Comme dit le texte aussi dans Romains, dépouillez-vous des œuvres de la chair et revêtez-vous de Christ. Le fils prodigue, il est revêtu d'un habit neuf et blanc et propre. Et il reçoit l'anneau, c'est-à-dire le signe de l'autorité. C'est pourquoi nous ne devons jamais quitter le lieu de la protection divine. Jamais. Je suis couvert de la grâce de Dieu, de la protection de Dieu, mais si je quitte ma vie cachée en Dieu, si je quitte ma position de victoire, je suis et je deviens une cible de l'adversaire qui a le droit légalement de m'attaquer. Lorsque je suis en Christ sous l'abri, dans la forteresse, lorsque je demeure en Christ, lorsque je suis caché en lui, lorsque je suis assis avec Christ dans les célestes, à ce moment-là, l'ennemi n'a aucun droit de m'attaquer et je peux lui résister dans le nom de Jésus. Tandis que si vous avez quitté le lieu de protection, il peut vous attaquer et vous n'avez pas l'autorité. Vous avez perdu l'autorité, car vous avez l'autorité uniquement dans le périmètre de la proximité de Dieu et dans sa volonté et dans sa présence. Alors ce matin, ma question, es-tu à couvert ou est-ce que tu es à découvert? Est-ce que tu te promènes à découvert et que tu t'étonnes de ce que tu as des attaques de partout et que tu es dans la défaite? Ou est-ce que tu te situes vraiment dans la protection, sous la couverture et dans le lieu secret? Tu es couvert par l'armure du chrétien, tu es couvert par le sang de Jésus, tu es couvert par la justice de Christ, tu es couvert par sa présence, tu es couvert par le vêtement de louange, tu es couvert par l'onction du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ceci est important. Romains 13, j'ai fait allusion, je le lis maintenant textuellement, Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin, puis certaines choses sont citées, l'excès, l'ivrognerie, la luxure, l'impudicité, les querelles, les jalousies. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Donc nous devons être couverts tout le temps. Restez couverts. Les armes du chrétien doivent rester sur nous en permanence. Maintenant, quelque chose de très important, toujours dans Éphésiens. Donc chapitre 1, ma position en Christ. Chapitre 2, aussi ma position en Christ. Chapitre 3, 4 et 5 parlent de ce que nous devons nous dépouiller. Par exemple, chapitre 3, nous avons ça aussi dans Colossiens, nous dépouiller de notre vieille nature et revêtir les armes de l'esprit, revêtir la nature nouvelle. Donc, chapitres suivants sont un encouragement, une exhortation à quitter certaines choses qui nous mettraient à découvert complètement et donneraient au diable de nous attaquer. Et ensuite, il nous est dit au verset 22 du chapitre 5 et dans les premiers versets du chapitre 6, il nous est dit que l'ordre de Dieu doit être respecté. Il nous est dit, relation homme-femme, mari, époux, épouse. La Bible en parle. Il a ensuite dit, enfant, relation enfant-parent. Verset 6, chapitre 6, verset 1. Honore ton père et ta mère, etc. Enfants, obéissez à vos parents, etc. Puis il est aussi dit, père, n'irritez pas vos enfants, élevez-les, etc. Ensuite, il est dit, serviteur, maître, employé, employeur. Et le Seigneur parle des relations qui sont à observer dans les règles de l'autorité que Dieu a positionnées dans le monde. Ceci est très important. Si nous contestons, je vais prendre un exemple après, si nous contestons l'ordre établi par Dieu, nous avons envie de faire à notre manière, selon notre philosophie de vie, selon notre compréhension des choses, des rôles, si nous renversons cet ordre divin, je tourne la page et j'arrive au chapitre 6 qui parle du revêtement des armes du chrétien. Nous ne pourrons pas avoir autorité sur le diable. C'est tout à la fin au chapitre 6, après avoir dit notre position en Christ, après avoir dit ce que nous devons abandonner, après avoir dit ce que nous devons respecter, il nous a dit à ce moment-là, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je voudrais vous inviter à considérer tout le livre des Éphésiens et de regarder l'ordre chronologique des choses, car il n'est pas question au chapitre 1 des armes de l'esprit et de l'autorité qu'a le chrétien pour combattre. C'est dit tout à la fin. Et certains chrétiens se trompent en commençant à sortir leurs gants de boxe et en s'engageant dans un combat spirituel dans lequel ils ne sont pas du tout préparés. Ils ne sont pas dans l'opposition d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Ils ont plein de choses que l'ennemi peut reprocher dans leur vie. Donc, ils perdent l'autorité. Ils vont recevoir des coups en retour. Mais c'est après avoir observé et être soumis au Saint-Esprit dans ce qui est écrit là que nous avons une autorité et que nous prenons les armes de Dieu et que nous sommes couverts. C'est très important ce que je vous partage ce matin. Je vais prendre trois exemples. Trois exemples. Le premier, c'est l'histoire de Noé. Toute simple histoire. Noé est entré dans une arche avec les siens et tous les animaux. Et Noé était à couvert, d'accord ? Il était protégé par l'arche. La pluie, le déluge, s'abat sur la terre. dans le jugement, mais ils sont à l'abri. La porte est fermée, une petite fenêtre est ouverte vers le ciel, et Noé est en communion avec Dieu. Il est dans l'obéissance, il est protégé par l'arche. Tout le monde est à couvert et protégé. Au chapitre 9, au verset 20, Noé est sorti de l'arche. Et là, il est tellement content et il plante une vigne et il ne connaît pas encore l'effet du vin. Mais la Bible donne un petit fait divers un peu honteux. Mais la Bible ne dit jamais rien pour ne rien dire. Il est dit que Noé s'est enivré et que, malheureusement, il savait plus ce qu'il faisait. Il a perdu pied, il était complètement... ivre, et il s'est déshabillé. Et dans son ivresse, probablement excessive, eh bien, la Bible dit que son fils l'a vu comme ça, dépouillé. Souvenez-vous, Noé était recouvert dans l'arche. Maintenant, il est sorti de l'arche et il est, en plus de ça, nu. Et le fils a vu cela et il va rapporter la chose à ses autres frères. Donc lui, non seulement au lieu de couvrir son frère comme va faire les deux autres frères, il va rien faire du tout, mais il va rapporter la honte du père aux autres. Et c'est là la leçon. Il expose la faiblesse de son père, la honte de son père, il va raconter ça aux autres, il rapporte le péché avec malveillance. Alors je sais bien que lorsque nous parlons des faiblesses des autres, des péchés des autres, nous ne le faisons pas avec malveillance, nous le faisons toujours dans le but d'être bienveillant, d'informer quelqu'un qui ne sait pas encore. Nous le faisons dans le but de discerner, d'expliquer les choses. Nous le faisons jamais malveillant. On veut clarifier les choses, mais on expose l'autre. Et la Bible dit que le fils de Cham qui a fait cela, donc qui a rapporté la nudité du père aux autres, le fils a été maudit. Il y a eu un jugement sur lui. Frères et sœurs, la question que je pose au travers de cet exemple de Noé, quel regard avons-nous sur la chute des autres? Lorsque nous voyons leur chute, leur faiblesse, leur honte, qu'est-ce que nous rapportons au juste? Est-ce que vous n'avez jamais senti le malaise en vous lorsque vous avez rapporté quelque chose? Vous ne vous sentez pas bien. Vous avez exposé les faiblesses et la honte de quelqu'un, les façons de faire mauvaises de l'autre. Et vous ne vouliez pas le faire avec malveillance, mais tout de même, le Saint-Esprit a montré que quelque chose ne va pas. La Bible dit, à plusieurs reprises, l'amour couvre une multitude de fautes. Noé était découvert et vulnérable. Et son fils a exploité cette faiblesse en la rapportant et du dégât a été fait, même une malédiction a été amenée. Le but n'est pas là. Le but ce matin pour nous, c'est de couvrir. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout cacher. Mais il y a des choses avec discernement qu'il faut couvrir, comme dit la Bible. L'amour couvre une multitude de péchés, Proverbe 10, 12. Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Est-ce que ce matin, nous n'avons pas aussi à nous examiner sur ce point-là? Restons sous l'abri du Très-Haut, sous la couverture, car l'ennemi se plaît tellement d'exposer et de faire du foin et de se rassasier, de se gaver. Les médias ne font que ça, finalement. Je ne veux pas tout mettre dans le même paquet et puis condamner les médias gratuitement comme cela, mais toutefois, il y a des journaux spécialisés qui ne font que ça. C'est exploiter les faiblesses et les scandales du monde entier. Ne soyons pas dupes, soyons bibliques, que notre amour, car il faut de l'amour pour ça, elle doit couvrir, comme nous le faisons pour nos enfants. Nous n'exposons pas nos enfants avec leurs faiblesses partout. Et les enfants ne font pas pareil, font pareil aussi pour leurs parents. Ils n'exposent pas partout ce qui se passe. Nous couvrons par l'amour. Deuxième exemple, Je m'en vais dans le Nombre chapitre 6 et je trouve l'histoire de Corée. Corée est un lévite et donc il a une position privilégiée dans le sens qu'il est serviteur de Dieu. Et à un moment donné, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il est venu avec une arrogance incroyable. Il s'est placé devant Moïse et a dit « Moïse, c'est bien joli, toi tu es chef, mais nous aussi on a un ministère ». Dieu ne parle pas que par toi, il parle aussi par nous. Il a commencé à revendiquer quelque chose qui n'était pas qui n'était pas à prendre. Il a commencé, et là je reviens à Éphésiens chapitre 5 et 6, il a combattu l'ordre de Dieu. Moïse n'avait rien demandé, Dieu lui a donné une position d'autorité. Et voilà que Corée et sa troupe, parce qu'ils étaient 250, ils ont commencé à contester l'ordre de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le texte, vous lirez, au lieu d'être assis avec Christ dans les lieux célestes, ils sont descendus sur la terre, dans leur fonctionnement charnel, arrogant, jaloux, contestataire et rebelle. Ils sont descendus sur terre et qu'est-ce que la terre a fait? Elle a ouvert sa bouche, ils sont descendus en terre. Incroyable. Vous pouvez le lire, c'est vrai. Lorsque vous descendez en terre, la terre vous engloutira. Vous serez perdant. Les gens de Corée étaient carrément convaincus d'avoir raison. Mais le fait d'avoir raison ne les a pas protégés. Le fait que vous ayez raison, ce n'est pas pour vous une source de protection. La protection, c'est dans le respect de ce que Dieu a établi. Frères et sœurs, les autorités établies sont de Dieu. Romains 13. Et nous avons parfois la tendance de ne pas être d'accord avec cela. Je vais un jour développer ce thème vraiment. Quelle est la façon d'agir face aux autorités? J'aimerais développer ça afin que ce soit bien clarifié. Il me semble que c'est très important pour la bénédiction et la protection du chrétien. Mais il y a quelque chose qui est magnifique, c'est que tout le monde n'a pas suivi. Il est dit que les fils de Corée n'ont pas suivi. Ils n'ont pas fait comme leur père. Ils se sont distancés de cette attitude mauvaise du père et ils sont devenus des chantres. Et nous avons des psaumes qui sont écrits par les fils de Corée. Donc, des gens qui ont perdu leur protection à cause de leur esprit contestataire de l'autorité établie. Troisième et dernier exemple, je le lis dans Josué 7, c'est l'histoire d'Acan. Et là, nous trouvons à nouveau un parallèle avec Éphésiens, chapitre 3 et 4, où la Bible dit « Dépouillez-vous de votre vieille façon de faire, les impuretés, les impudicités, les mensonges, la colère, l'amertume, toutes ces choses, vous mettez ça de côté, vous confessez ces choses, vous les mettez à couvert, vous les mettez à découvert pour qu'être pardonné et libéré de cela. » Dans l'histoire d'Acan, nous trouvons justement quelqu'un qui, lui, a caché des choses. Il a mis une couverture, une cachette, sur un butin qu'il n'avait pas le droit de prendre. Israël était donc en train de conquérir le pays promis, et ils sont devant la ville de Haï. Et là, ça a été Haï, Haï, Haï. Ça a été une grosse défaite parce que, justement, ce fameux Acan a touché à quelque chose qu'il ne devait pas toucher. Il a pris pour lui ce fameux manteau du Shinéar, le lingot d'or et de l'argent, il l'a caché sous sa tente. Et comme Israël était en progression, ils ont été défaits. Et Josué cherche la face de Dieu. Dieu lui dit, je vais montrer qui c'était. Et en montrant la famille Acan, et Acan a reconnu tout ce qu'il avait fait. Et il a été jugé à cause de cela. Mais à cause du fait qu'il avait caché cela, tout le peuple a été dans la défaite. La Bible dit ceci. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Ecclésiaste 12. 1 Corinthiens 4, 5. Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Luc 12, 2. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui doit être connu. À quand vous voulez cacher les choses? Ça a bloqué tout Israël. L'ennemi a pu vaincre Israël. Le Seigneur a dit, il faut mettre ça en lumière. Il faut déterrer ce trésor. Il faut me l'apporter. Cela veut dire que nous ne devons rien cacher qui ne nous revient pas. Nous devons arrêter les mensonges, les tricheries et ramener dans la lumière du Seigneur ce que nous avons caché pour que personne ne s'en rende compte, que personne ne le voit. Car l'ennemi a un droit. Donc nous devons enlever la couverture pour retrouver la protection du Seigneur en confessant notre péché et en demandant pardon au Seigneur. C'est ce que j'avais à vous dire ce matin. La protection du Seigneur, l'abri du Très-Haut, l'ombre du Tout-Puissant, la forteresse, le refuge, veut dire « je demeure en Christ, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes ». Et si j'ai cette position, en me dépouillant des œuvres de la chair, des fonctionnements mauvais qui ne plaisent pas au Seigneur, qui attristent le Saint-Esprit, je peux me revêtir de toutes les armes de Dieu et je suis vainqueur. Et je maintiens ma victoire en Christ. J'ai une autorité, car en Christ, le Seigneur donne son autorité. Amen. Voici l'enseignement pour ce matin. J'aimerais qu'on puisse se lever pour prier. Et ensuite, je laisserai la place pour la Sainte Cène. Père, je te prie ce matin que ta parole fasse son chemin dans les cœurs, que nous puissions la méditer, que nous puissions aussi considérer nos vies, Seigneur. Nous avons appris que nous n'avons pas à exposer les autres, mais plutôt à couvrir par l'amour. Seigneur, nous avons appris que nous ne devons rien cacher, car cela constitue une défaite et un sujet d'attaque du diable pour nos vies. Nous avons appris, Seigneur, que nous ne devons pas contester ce que toi tu as établi, sous peine de perdre notre protection et d'être aussi sous le jugement. Seigneur, nous te remercions de ce qu'en Christ, nous avons une pleine et totale victoire. Nous te remercions de ce qu'en Christ, Seigneur, nous avons une position, Seigneur, qui est vraiment cette position parfaite où nous sommes revêtus de ta justice, revêtus de toi. Seigneur, merci parce que nous avons reçu en cadeau cette position que nous ne voulons jamais abandonner. Nous ne voulons pas descendre sur la terre pour être happés par la terre et nos raisonnements charnels et nos fonctionnements charnels et humains. Seigneur, nous voulons rester assis avec Christ dans les lieux célestes, dans la victoire. Seigneur, dans l'amour en toi, dans la protection que nous avons en Christ, dans le nom de Jésus. Amen.